Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Ce qui me fait marcher dans la vie, c'est de joindre mes deux passions, c'est-à-dire un engagement citoyen et militant et une passion pour l'histoire qui m'a prise très jeune. Et donc de les joindre dans toutes les dimensions de mes parcours de vie différents. Voilà, être inscrite dans la cité et puis considérer que l'histoire est toujours contemporaine et que donc elle nous apprend quelque chose aujourd'hui et qu'on la lit par rapport à aujourd'hui.
Bonjour, en compagnie de Joëlle Régnier, nous accompagnons dans la rue Stéphanie Prezioso, historienne professeure à l'Université de Lausanne. Stéphanie Prezioso est intervenue dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « La Première Guerre mondiale a-t-elle eu des causes ?»
Je suis fille d'immigrés italiens, avec deux parents très engagés et très actifs dans la vie politique de leur pays et de leur pays d'accueil. Et donc, effectivement, je me suis très tôt intéressée à l'histoire de l'Italie. Voilà. Mais au départ, ce n'était pas ce sur quoi je voulais forcément travailler, lié sans doute à des mauvaises expériences de xénophobie, d'exclusion, etc., liées à mes origines. Et puis, bon, ben voilà, j'ai quand même commencé à travailler sur l'Italie. J'ai travaillé en particulier sur l'antifascisme italien et sur le fascisme, de fait. Mais j'ai laissé de côté, pendant très longtemps, l'une des dimensions, disons, qui m'est le plus proche, qui est celle de l'étude de l'immigration italienne du travail, je dirais, en Suisse, que j'ai abordée que par la bande et en particulier par les engagements militants.
Voilà. Vous avez procédé aussi à une étude comparative entre l'immigration en France et en Suisse.
Oui, j'ai procédé à ça aussi par la bande. C'est vrai que mes objets plus spécifiques de recherche recouvrent plutôt l'histoire politique et sociale. Et j'ai beaucoup travaillé, c'est vrai, sur des objets de groupes ou de partis antifascistes. Maintenant, juste pour répondre à votre question, je pense que ça, mes origines, mes engagements posent un certain nombre de mes sujets, mais pas tous. En revanche, je ne pense pas qu'ils biaisent l'analyse que j'en fais, puisque pour moi, comme pour tout historien sérieux, c'est l'administration de la preuve, en fait, qui fait que mon travail est un travail scientifique, l'administration de la preuve qui tend à la recherche de la vérité. Et c'est autour de ça, en fait, que mon travail s'axe comme celui de tout historien, qu'il soit ou non engagé dans la cité.
Pas une petite grille marxiste?
Une grosse grille marxiste. Une très grosse grille marxiste. Mais enfin, le marxisme est une forme d'analyse scientifique qui administre la preuve et qui cherche la vérité. Donc voilà.
Non, mais c'est bien de donner les clés de lecture.
Absolument. Non, tout à fait. Toujours savoir de où on se positionne et de où on parle, effectivement.
Votre engagement, c'est l'équivalent du Front de Gauche en Suisse?
Ouais, est-ce que c'est l'équivalent du Front de Gauche? Non, pas vrai. Enfin, c'est un rassemblement de forces. Bon, moi, je milite dans un parti qui s'appelle Solidarité, qui s'est lui-même constitué autour d'un rassemblement de forces très vaste, hein, allant d'anciens membres du Parti communiste, en passant par des gens engagés dans des associations de citoyens ou dans des associations de quartier, etc., etc., continuant vers des gens qui étaient sortis du Parti socialiste. Donc c'est très très large comme point de départ. Et puis maintenant, ce parti est allié, dans le cadre d'élections, à d'autres forces, dans ce sens-là, comme le Parti du Travail, donc l'équivalent du Parti communiste. Donc dans ce sens-là, oui, on pourrait considérer qu'on forme un front et que c'est pas équivalent, mais disons contigu. Je termine une semaine très importante dans le canton de Genève, puisque c'est une semaine de grève de la fonction publique et du service public. Une grève extrêmement suivie avec plus de 10 000 personnes dans la rue, contestant les coupes proposé par le gouvernement cantonal. Donc tout à coup, on m'a dit, un de mes collègues qui est passé à Genève, donc qui venait de Paris, qui est passé à Genève, qui m'a dit « mais c'est hallucinant, j'arrive à Genève, tout est bloqué, des milliers de personnes dans la rue, qu'est-ce que vous faites, la révolution ?» Donc c'est vraiment quelque chose qui est très rare, hein. La dernière mobilisation de cette envergure, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, on est dans une poussée où on peut recommencer peut-être à s'intéresser du point de vue du mouvement social à la Suisse.
Sans être annexé par la France.
Bien sûr.
Juste pour terminer ce petit chapitre introductif de présentation, puisque vous vous engagez, et notamment au sujet de la défense des migrants sans papiers, immigrés, c'est terrible comme situation en Suisse.
La Suisse est, d'ailleurs elle le dit bien souvent, est un exemple pour l'extrême droite européenne, pour les normes que la Suisse a mises en place. C'est une vieille histoire, hein, ce depuis la première loi sur les immigrés dans les années 30, qui est passée en 1934, immigrés, réfugiés, jusqu'aux différentes révisions de ces lois jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des lois extrêmement restrictives, extrêmement répressives. Donc la situation d'immigrés en Suisse est une situation compliquée. Alors comme partout, elle est beaucoup plus compliquée quand on vient de ce qu'on appelle le troisième cercle, hein, dans le cadre de la loi helvétique, c'est-à-dire quand on vient de pays hors d'Europe, que lorsque l'on vient de pays européens. Voilà. Et évidemment, elle est infiniment plus dure quand on arrive de pays en guerre, qu'on demande l'asile politique et que l'on est sans papier.
Vous dénoncez aussi les formes de racisme à votre encontre ?
Oui, absolument. Bon, on vous dira, quelque part c'est vrai, que ces formes de racisme-là ont en partie disparu, puisque les Italiens ont été petit à petit remplacés par les Espagnols, qui eux-mêmes ont été petit à petit remplacés par les Portugais. Et aujourd'hui, ceux qui vraiment sont en but à un racisme virulent, c'est les immigrés venant d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. C'est clairement. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on applique à eux le même type de stigmates que l'on appliquait aux Italiens, y compris d'un point de vue culturel, hein, ce qu'on dit aujourd'hui, mais enfin les Italiens, les Espagnols, les Portugais, enfin les Européens au sens large, on est quand même proche d'eux, on partage la même culture, etc. Si vous lisez les comptes rendus d'un certain nombre de partis, de la presse, mais aussi de la police en Suisse, eh bien on se rend compte que les Italiens n'étaient pas du tout considérés comme des gens proches de nous, ils étaient plutôt considérés comme des espèces de barbares hirsutes, à la langue incompréhensible, couteau facile, enfin, etc., etc. Donc voilà, c'est marrant, enfin, c'est intéressant et je trouve assez drôle d'essayer de tirer ces comparaisons-là pour se rendre compte qu'on est sur un trend qui n'est pas nouveau, même s'il se renforce et même s'il devient de plus en plus pénible pour les immigrés. La Suisse, donc vous savez, c'est trois régions linguistiques, c'est deux religions catholiques et protestantes, c'est des rapports privilégié du côté allemand avec l'Allemagne et du côté roman avec la France. Donc la Première Guerre mondiale, c'est une situation assez compliquée du point de vue des autorités cantonales, du point de vue des autorités communales et évidemment du point de vue des autorités fédérales, dans le cadre d'un positionnement qui va se faire de plus en plus, en tout cas dans les sphères de l'armée, dans les hautes sphères de l'armée qui sont des sphères suisse-allemandes, plus proche de l'Allemagne, je dirais. Et puis, vous avez toute la politique que mèneront les banques. Non, ça commence alors, disons. Toute la politique de prêt et de soutien que mèneront les banques suisses, en particulier le Crédit Suisse. Il y a une très bonne thèse qui a été faite là-dessus d'un auteur qui s'appelle Malik Masbouri, qui a travaillé sur qui a fait la biographie du responsable du Crédit Suisse pendant la Première Guerre mondiale et qui a montré en fait les liens entre la banque et une partie des alliés, mais aussi une partie de l'entente, en particulier l'Allemagne, et qui montre très bien les positionnements différenciés en fait des banquiers suisses pendant cette période. Donc voilà, mais la Suisse c'est aussi un pays qui mobilise malgré sa neutralité. C'est un pays qui mobilise des paysans et des ouvriers qui sont pour la plupart, comme dans les autres pays belligérants, sous-payés, qui vivent dans des situations difficiles, des situations d'autant plus difficiles que, voilà, en novembre 1918, c'est la première grève générale en Suisse, dont on va bientôt peut-être commémorer le centenaire. Je dis toujours peut-être parce que quand il s'agit de commémorer des éléments importants du mouvement ouvrier, c'est toujours, enfin, on le fait un peu trop souvent en catimini. Mais voilà, donc c'est aussi des conditions de vie extrêmement difficiles, même si la guerre ne touche pas le territoire helvétique.
Au Petit Suisse, est-ce qu'on raconte dans les cours d'histoire cette période ?
Alors, dans les historiens qui enseignent l'histoire dans les écoles en Suisse ont tous cette même plainte que finalement, on apprend l'histoire européenne, l'histoire internationale, mais essentiellement européenne, parce qu'on oublie évidemment l'Afrique, l'Asie, etc. Mais sans jamais s'intéresser réellement à l'histoire suisse, qui est un vrai problème dans le cadre des enseignements, ne serait-ce que pour avoir une prise aussi sur le pays dans lequel on vit, simplement. Et donc, on enseigne aux élèves d'histoire, évidemment, cette histoire-là. Maintenant, un certain nombre de professeurs de lycée, en particulier, on fait un véritable travail extraordinaire de recherche de documents, de mise en place d'un manuel extrêmement bien fait qui pose à la fois l'histoire suisse et l'histoire européenne en regard et en question. Et sur l'ensemble de ces éléments, oui, les élèves en Suisse ont effectivement une première prise sur ce qui se déroule, ou en tout cas sur les événements, les grands événements du XXe siècle, la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale en particulier.
Et on leur dit quoi ?
Alors on leur dit tout dépend du manuel, évidemment. Et à mon avis, de plus en plus, on finira par leur dire que sans doute la crise de l'attentat, disons l'attentat a été l'une des causes, si ce n'est pas la cause majeure du déclenchement du conflit. Pour des tas de raisons, on revient à cette hypothèse dans un pan de l'historiographie. Et à mon avis, sans doute, on retravaillera sur ces questions un peu différemment, mais un certain nombre d'historiens sont en train de remettre ça au centre de la recherche, laissant de côté les questions plus systémiques, je dirais, l'analyse systémique de ce qui se déroule effectivement avant 1914.
Je ne sais pas les jeunes ce qu'ils en pensent, mais l'autre jour, nous distribuions des prospectus pour la réunion de ce soir à Nantes Histoire. Donc c'est un public d'un certain âge. Il y avait des tas de gens qui avaient des opinions sur les causes de la guerre. On ne pouvait pas distribuer, on se faisait arrêter et ils amorçaient la discussion.
Qu'est-ce que vous enseignez ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Et monsieur peut venir aussi ?
Il s'éloigne.
Si vous n'avez pas compris le message.
J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on m'a appris ? Que c'était dans les Balkans quand ça s'est passé, et que machin, il a été assassiné, et que voilà, je ne vais pas retrouver son nom, forcément. Ouais, mais ça a commencé comme ça. Faut que je raconte tout.
Comme si vous étiez. Ah,
non, j'y étais pas. Je vous remercie.
C'est l'archiduc.
Voilà, c'est ça.
À Sarajevo.
Oui, c'est ça.
On n'a retenu que ça.
Oui, mais c'est un début, à la fois. C'est un bon début. Enfin, c'est un début.
Et je ne vous parle pas du côté suisse.
La Suisse, elle a participé, non ?
Comme dame, hein ?
Comme dame.
Exactement.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que la Suisse ne participe jamais.
Avec le concours des banques, ce n'est pas une participation ?
Ah, je ne sais pas si les banques ont joué leur jeu là-dedans, certainement, de toute façon.
Les banques ont joué dans le conflit, effectivement.
Donc c'est une neutralité qui n'est pas tout à fait neutre.
En compagnie de Joël Régnier, nous accompagnons dans la rue Stéphanie Prezioso, historienne, professeure à l'Université de Lausanne.
mon directeur de thèse s'appelle Hans Ulrich Jost, a toujours dit que la neutralité est un concept à géométrie variable. Et à mon avis, il avait tout à fait raison. C'est une notion à géométrie variable et voilà, suivant les circonstances, suivant l'analyse de la situation concrète, comme dirait l'autre, eh bien, on change d'optique, hein, du point de vue de la neutralité. C'est très très clair. Le retour à la neutralité intégrale en 1938, par exemple, est assez intéressant lorsqu'on se rend compte qu'il arrive précisément au moment où toutes les tentatives de la SDN ont échoué et qu'on va arriver, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, à un déclenchement. Donc ça, c'est vrai que voilà, ces éléments-là sont assez intéressants.
Vous étudiez les rapports qui existent aujourd'hui entre la situation économique actuelle et celle qui existait à l'époque ?
Non, pas moi. Non, pas du tout. Non, certains historiens économiques essayent de tirer des liens entre effectivement un certain nombre d'analyses économiques de l'époque. Notamment, il y a toute une série d'historiens qui sont en train de s'interroger sur la théorie de l'impérialisme d'Hobson du début du XXe siècle, d'essayer de voir quel lien ou quelle résonance ce type de texte aurait aujourd'hui. Voilà, ça c'est intéressant. Mais moi, je ne suis pas historienne économique, donc... Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, très 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 modestement, c'est pas du tout d'arriver à des conclusions quelconques, c'est plutôt de poser une série de questions autour des origines, en reprenant des questions qui sont toujours en gros les mêmes. Pourquoi la guerre? Pourquoi la crise de juillet 14 en particulier? Pourquoi pas d'autres moments avant? Pourquoi est-ce que la validité d'une interprétation liée à la crise du système, hein, est toujours valable d'actualité? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des théories sur l'impérialisme? Enfin, etc., etc. Mais très modestement, tracer quelques petits jalons de questions plus que de réponses.
Sauf que nous, on aime bien les réponses.
Ah oui, mais je m'en doute bien, mais...
Vous avez aussi envie de déconstruire un certain nombre de propos, non? Sans être exhaustive, mais donner un petit peu quelques éléments de réflexion.
Disons, ce qui moi me tarabuste en ce moment, c'est qu'on revient à des explications centrées plus sur l'événement, comme disent les Anglais, out of the blue, hein, sur un éclair dans un ciel serein, voilà, en reprenant, alors à mon avis, à raison, on doit toujours reprendre les analyses plus spécifiques, du corps diplomatique, de ceux qui ont fait la politique étrangère, des États. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Le seul problème que je vois, c'est si on se contente de cela sous prétexte de mettre de côté définitivement, par exemple, l'une des théories qui avait quand même un poids assez important parmi les théoriciens marxistes, qui était celle de l'impérialisme. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'impérialisme est devenu un mauvais mot. C'est autour de ça, en fait, que moi, j'ai envie de revenir, c'est-à-dire revenir à des explications qui sont à la fois qui tiennent compte des avancées de l'historiographie. Moi, je pense qu'on peut pas faire comme eux, c'est-à-dire on peut pas mettre de côté toute une série d'avancées. Par exemple, la question pourquoi en juillet 14 plutôt que dans le cadre des guerres balkaniques est une question intéressante, pourquoi pas avant. Donc on doit prendre en compte ces éléments, on doit aussi avancer, je pense Antoine Prot notamment le dit, et je pense qu'il a raison, qu'il faut avancer dans le cadre des recherches plus spécifiques sur chacune des nations, c'est comme si on avait laissé tomber, hein, une partie de ces recherches, mais il faut aussi revenir et remettre sur le terrain, à mon avis, des théories qu'on a aujourd'hui un peu tendance à laisser de côté. Thank you. façon construire un élément de compréhension, en tout cas de questionnement sur les origines, implique pour moi, selon moi aujourd'hui, du point de vue des avancées aussi historiographiques, de prendre en compte bien sûr les théories de l'impérialisme, mais de prendre aussi en compte les transformations culturelles, mais de prendre aussi en compte les questions de l'organisation politique, et en particulier de l'organisation politique du mouvement ouvrier, et donc de réintervenir ou de réinvestir le débat entre est-ce que la Grande Guerre est une affaire de politique intérieure ou de politique extérieure, mais en la couvrant, disons, en essayant de la couvrir sur l'ensemble de ces aspects-là. Et c'est ça la nouveauté, en fait, par rapport à des éléments qui sont restés très structurés autour de quelques grandes vagues explicatives qui ne cherchaient pas forcément à aller au-delà dans un certain nombre d'écrits.
Et si ça ne va pas au-delà d'un certain nombre d'écrits, c'est volontaire ou c'est simplement parce que c'est le progrès dans la recherche?
Je pense qu'il y a plusieurs questions, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en avant dans le cadre de cette explication-là. Il y a, je pense, une forme de lissage de la conflictualité sociale dans le cadre de l'historiographie. Justement, on a tellement cherché à démonter les historiens, les études historiennes marxistes des années 60-70, dont certaines étaient dogmatiques, effectivement, et qui posaient toute une série de problèmes analytiques. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en mettant de côté tout un pan de l'historiographie qui est effectivement problématique aujourd'hui, on met de côté aussi toute une série de questions qui méritent toujours d'être soulignées et relevées. Notamment, maintenant, aux États-Unis, quelqu'un comme Geoff Ellis, qui est un historien vraiment passionnant, remet sur le devant de la scène toute une série d'éléments, comme le social-impérialisme. Discutons du social-impérialisme dans le cadre de la Première Guerre mondiale. Il discute aussi de l'idée du développement inégal et combiné comme mode d'interprétation nouvelle de la Première Guerre mondiale, puisque les théories de l'impérialisme de Lénine, selon lui, sont trop statiques, puisqu'elles supposent des nations ou des puissances impérialistes équivalentes. Donc, bon, il y a toute une série d'aspects qui sont comme ça assez intéressants à relever, sur lesquels il est assez important de commencer à réfléchir, et précisément pour essayer de reprendre le bébé, voilà, en jetant l'eau du bain de certains écrits problématiques.
Il y a toujours un aspect lutte des classes.
Bah oui, évidemment. Évidemment, mais c'est précisément ça qu'on essaye de pas d'effacer, mais de lisser. Je pense que c'est vraiment ça la question. Si on regarde maintenant, par exemple, aujourd'hui, comment sont traitées les expériences combattantes, c'est extrêmement intéressant parce que, bon, vous savez, en France, vous avez ce débat entre l'école de Péronne et les historiens du CRID, dont je suis membre, disant qu'il y avait des options politiques qui avaient été prises par les historiens du CRID, ce qui n'est pas vrai en l'occurrence. Mais les historiens du CRID ont fait beaucoup avancer, notamment en mettant en avant des témoignages, en analysant des témoignages. On fait beaucoup avancer l'histoire précisément de ces expériences de guerre, du point de vue paysan et ouvrier. Et il est plus possible aujourd'hui de présenter cette expérience-là comme on la présentait du point de vue de l'historiographie mainstream encore il y a quelques années, lorsqu'on présentait l'expérience de guerre comme une espèce de croisade consentie par la population, etc. Donc là, on n'est plus dans ce cadre-là, heureusement, mais tout le monde a regardé ce documentaire « Apocalypse Première Guerre mondiale ». Bien, dans Apocalypse Première Guerre mondiale, les expériences combattantes, alors évidemment, on ne peut plus les traiter, comme je le disais, comme on le traitait avant, mais j'ai l'impression qu'on a lissé à l'intérieur de ces éléments explicatifs, qui ne peut plus être le patriotisme, etc. On a introduit ces éléments d'expérience de guerre dure, pénible, pour les intégrer à une narration, à un récit national légèrement différent, mais qui marque quand même l'accord probable de la population à la guerre. C'est un peu ce qu'on a vu ces deux, trois dernières années. Alors c'est intéressant parce que c'est pas, on ne nie pas et on combat plus une forme d'historiographie, mais on l'intègre. Et on l'intègre en enlevant tout ce qui est de l'ordre des aspérités, précisément de la lutte sociale, de la lutte des classes, et voilà.
Avec une dimension aussi, qui est la dimension européenne, puisqu'on veut s'inscrire dans un champ d'histoire, de communauté européenne.
Tout à fait, c'est vrai. Il y a aussi une autre forme de narration qui est aussi liée, je disais, l'histoire est toujours contemporaine, elle est aussi liée à la situation que l'on vit aujourd'hui et aux réponses qu'on essaye de trouver aujourd'hui. Alors on les trouve de manière différente, suivant les historiens qui les cherchent, parce qu'ils se positionnent et qu'ils partent d'une question différente, mais c'est effectivement autour de ces questions-là, notamment le fait que l'on cherche à faire une histoire européenne de la guerre, avec toutes les questions que cela va poser à terme, eh bien c'est... Voilà.
Ça explique qu'on puisse reconnaître des mouvements de fraternisation sur le front.
Oui, absolument. Absolument. Mais ce qui est très bien, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... C'est-à-dire, ce qu'il faut réussir à être, c'est être un peu, dialectique, comme disait l'autre. C'est-à-dire, essayer de...
Il est bien ce quart.
Il est bien un quart. Essayer de pouvoir entrer en dialogue avec l'ensemble de ces aspects sans forcément porter immédiatement un jugement qui serait inévitablement négatif, mais essayer de le mettre en rapport avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec les réponses que ça peut nous donner. Je pense que ça, c'est essentiel.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
Moi, c'est ma première, disons. C'est assez rigolo. Oui. Non, c'est assez drôle. Et puis, c'est beaucoup moins stressant qu'une interview classique dans un studio avec le stress que cela suppose. Non, ça me paraît très, très bien. Y compris la réaction du couple où, de manière assez significative d'ailleurs, c'est l'homme qui, en principe, et celui qui a le monopole de la parole, qui s'en va. Et c'est la femme qui reste et qui répond aux questions. Je trouvais ça très, très bien. Enfin, très, très intéressant.
Oui, parce que c'est peu commun.
C'est assez peu commun, oui.
Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le thème qui a provoqué ce comportement.
Ah, peut-être le thème historique, ouais, c'est possible. Enfin, c'est pas impossible.
Merci à Stéphanie Prezioso, historienne, professeure à l'Université de Lausanne, et merci à Joël Régnier et Nathalie pour leur libre participation à ce reportage enregistré avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.
Petit complément au sujet de la revue Solidarité avec un S.
Oui, les Solidarités, hein, bien sûr, avec un S majuscule. Donc c'est un bimensuel qui a un cahier central qui s'appelle le cahier Émancipation, depuis des années et des années et des années, qui est un cahier que je trouve assez intéressant parce que c'est un cahier qui essaye sur 4 pages, donc sur environ 25 000 signes, de traiter une question approfondie. Donc là, on traduit beaucoup de choses qu'on met à disposition d'un public francophone où on produit un certain nombre de choses sur toute une série d'éléments, l'écologie, les rapports hommes-femmes, enfin, etc., etc. Donc, la crise, voilà. Donc ça, c'est un cahier assez intéressant. Et puis, on a des pages plus centrées sur la Suisse, comme les pages Monde du Travail, qui essayent de rendre compte des mouvements de grève, mais aussi des conditions de travail des salariés. Des pages féminin-masculin, là aussi, sur lesquelles on essaie de s'interroger sur toute une série d'aspects. C'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup en lien avec les pages immigration-racisme, dans les pages féminin-masculin, sur les questions de l'immigration et sur le rapport différencié aux femmes, précisément, aux femmes immigrées. Et puis, On a une série de pages locales, cette fois plus axées, hein, comme la politique suisse est souvent malheureusement une politique locale, hein, parce qu'on est divisé par canton, par région linguistique, etc. Avec quatre pages locales qui reprennent trois cantons différents et les actions que nous menons, et parlementaires et dans la rue. Voilà.
Il y a une version papier, une version numérique. C'est distribué dans toute la Suisse ou en Europe ?
C'est distribué dans toute la Suisse. On a un certain nombre d'abonnés français, hein, en l'occurrence. Et puis, effectivement, c'est en ligne un peu après sa parution.
Les prochains invités de l'UMA Café de Nantes seront Vincent Magret, professeur de philosophie au lycée des Bourdonnières. Il interviendra le mercredi 9 décembre à 18h, cours carré de la Tour à Plomb à Couéron, sur le thème « Laïcité, quels enjeux aujourd'hui ?» Et Stéphane Lavignotte, théologien, pasteur protestant, Yvon Quignoux, philosophe, membre de rédaction de la revue La Pensée. Ils interviendront le vendredi 11 décembre à 18h au lieu unique à Nantes sur le thème « Les religions sont-elles réactionnaires ?»